On parle avec plus de précision, justement, grâce à Luc Hensley Luma qui nous dira tout autour de cette actualité. Bonjour, mon très cher.
Bonjour, Freeman.
Comment tu vas ce matin?
Ça va très bien, et pour vous?
Ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, on parle justement de ce Edmonton Advantage et on aimerait savoir, quand la ville parle de l'avantage d'Edmonton, c'est la traduction en français, quels sont concrètement les atouts qui distinguent Edmonton des autres grandes villes canadiennes?
Ouais, alors, l'avantage d'Edmonton repose d'abord sur une compétitivité économique exceptionnelle. La ville est la moins chère en Amérique du Nord pour une entreprise de taille moyenne.
Dans l'Amérique du Nord?
Oui, bien sûr, la ville d'Edmonton.
Wow.
Donc pour une entreprise de taille moyenne, avec un avantage annuel de 4 millions de dollars par rapport au marché canadien le plus cher, et aucune taxe sur la machinerie et l'équipement et le temps de déplacement les plus courts parmi les grandes villes canadiennes. À cela s'ajoute un marché immobilier parmi les plus abordables au Canada et le plus grand parc urbain en Amérique du Nord. Donc, sur le plan de l'innovation et du capital humain, Edmonton se classe 5e mondial en recherche sur l'intelligence artificielle. On dispose également ici à Edmonton de 8 établissements postsecondaires de calibre mondial. Et Edmonton possède la population la plus jeune parmi les grandes régions métropolitaines canadiennes. Un chiffre révélateur illustre le potentiel encore sous-exploité de cette image. Lorsqu'on voit les perceptions non locales d'Edmonton qui sont nettement plus positives que celles des résidents eux-mêmes, ce qui confirme qu'Edmonton est davantage reconnue à l'extérieur qu'elle ne se valorise elle-même.
Wow, ça c'est magnifique, on en apprend des choses. La ville d'Edmonton, capitale provinciale, grande ville déjà, ce qu'il faut aussi rappeler. Moi je croyais qu'elle était simplement la ville avec l'immobilier le moins cher, mais là quand même être la ville la moins chère de toute l'Amérique du Nord, c'est un grand atout qui la distingue vraiment des autres villes.
Ah bien sûr.
On poursuit justement avec cette autre question pour savoir quel secteur économiques seront prioritaires dans cette nouvelle stratégie baptisée Edmonton Advantage ou l'avantage d'Edmonton.
Alors, de par ma lecture du document partagé, la stratégie ne cible pas un secteur unique, mais s'articule autour de 4 axes définis par le conseil municipal. Tout d'abord, il y a le soutien aux startups et à la croissance des entreprises, l'augmentation des investissements industriels et commerciaux. Troisièmement, la valorisation des arts, de la culture et du sport comme moteur du tourisme et économique. Et en dernier lieu, le renforcement de la vitalité du centre-ville. En filigrane, le secteur technologique occupe une place centrale. Les entreprises tech edmontonaises ont levé plus de 2,7 milliards de dollars en capital risque au cours des 5 dernières années. Et Edmonton demeure le marché d'exploitation le moins coûteux en Amérique du Nord pour une entreprise technologique moyenne. Donc l'industrie constitue également un pilier majeur. Elle représentait 38% de l'assiette fiscale commerciale en 2023. Et la ville dispose de 6 990 hectares de terres industrielles, dont environ un quart est déjà zoné et prêt à accueillir des investissements. Les 5 plus grands secteurs d'activité représentent ensemble 62% du tissu entrepreneurial local, ce qui témoigne d'une économie déjà diversifiée que la stratégie cherche à amplifier plutôt qu'à réorienter.
D'accord. En tout cas, un axe en particulier, il a retenu mon attention, c'est notamment le soutien aux startups. Et j'aimerais savoir comment cette stratégie d'Edmonton Advantage va soutenir les petites et moyennes entreprises locales qui constituent quand même une grande partie du tissu économique de la ville.
Les petites et moyennes entreprises occupent vraiment, comme tu le dis, une place centrale dans la ville et même dans cette stratégie. Et pour cause, elles représentent 97% de tous les établissements et 61% de l'emploi à Edmonton. Pourtant, une lacune majeure a été identifiée près des deux tiers des entreprises ignorent l'existence des services de soutien offerts par la ville. La stratégie prévoit donc d'améliorer concrètement les services business friendly, de bonifier les programmes de subvention et même d'optimiser les achats locaux, tout en s'attaquant bien sûr à la réduction des formalités administratives qui permettent déjà aux entreprises d'économiser 167 000 jours et 16 millions de dollars par an. Au-delà des mesures administratives, la ville entend transformer son rôle de simple régulateur en véritable partenaire de croissance, en construisant bien sûr des relations proactives avec les entreprises envisageant une expansion ou même une relocalisation. Une attention particulière est aussi portée aux entreprises autochtones, avec la simplification des processus réglementaires et un soutien renforcé. Une priorité tout à fait cohérente avec le fait qu'Edmonton abrite la deuxième plus grande population autochtone parmi les grandes villes canadiennes.
Waouh! Ça alors, on s'en fait des particularités, des atouts pour la ville d'Edmonton. Et si on s'en tient justement au communiqué de presse publié justement par la ville d'Edmonton, la population de cette métropole pourrait donc atteindre 2 millions d'habitants dans les prochaines décennies. Mais j'aimerais savoir, est-ce que la ville est prête à accompagner cette croissance en matière de logement, de transport et d'infrastructure? C'est vrai qu'il y a, en parlant encore des lignes de train, mais est-ce que Edmonton est prêt justement à accompagner cette croissance?
Parlant de croissance, je dois rappeler que la population d'Edmonton a déjà bondi de 18% entre 2021 et 2025, l'équivalent des populations combinées des villes comme Red Deer et Saint-Albert. Et la valeur des projets de construction a cru de 23% en glissement annuel en 2025. Donc, face à cette accélération, la stratégie reconnaît ouvertement un déséquilibre préoccupant. La croissance résidentielle dépasse la croissance commerciale et industrielle, ce qui alourdit la pression fiscale sur les entreprises. Pour y remédier, la ville entend mobiliser ses terres, ses talents et même ses infrastructures pour catalyser l'investissement non résidentiel, notamment via un fonds d'opportunités économiques et des incitatifs fiscaux pour les nouvelles constructions commerciales et industrielles d'envergure. Et sur les infrastructures de transport et de services, la stratégie reconnaît explicitement que des enjeux comme la sécurité, les transports en commun, l'entretien des infrastructures et même la gestion des perturbations liées au chantier sont des conditions habilitantes de la croissance économique, même s'ils relèvent d'autres plans municipaux. Et la ville s'engage aussi à défendre ses dossiers auprès des partenaires concernés tout en s'appuyant sur les atouts existants. Deux lignes ferroviaires majeures, un aéroport cargo international et des axes routiers transcanadiens qui positionne Edmonton comme un nœud logistique stratégique. Donc voilà, c'est ça.
Oui, merci. Mais maintenant, enfin, pour sortir de cet échange, j'aimerais savoir quels indicateurs permettront de mesurer le succès de cette stratégie d'ici 2030. Enfin, en gros, c'est savoir comment est-ce que les citoyens pourront constater concrètement ces retombées dans leur quotidien, dans leur vie de chaque jour.
Alors, il y a bien quatre grandes catégories d'indicateurs de performance qui structurent l'évaluation de la stratégie. Mmh. Il y a la croissance des entreprises et leur satisfaction à l'égard des processus de permis et de licence, ouais, permettront de mesurer le soutien aux start-up. Donc, la croissance réelle de l'assiette fiscale non résidentielle et l'augmentation des permis de construction non résidentielle serviront à évaluer les investissements industriels et commerciaux. Le taux d'occupation hôtelière et le taux d'utilisation des salles et équipements mesureront l'impact du tourisme lié aux arts, à la culture et au sport. Enfin, le taux de vacances commerciales au centre-ville et la croissance résidentielle dans ce secteur indiqueront si la vitalité du cœur de la ville progresse. Et ces indicateurs sont délibérément alignés avec les quatre priorités économiques du conseil municipal. Mmh. Et la ville prévoit de les compléter par des mesures supplémentaires aux besoins. L'approche d'implantation sera, selon ses propres termes, réfléchie et mesurée. Les actions offrant le meilleur retour sur investissement seront priorisées en premier. Le résultat devant financer les phases ultérieures du plan, une logique du cercle vertueux où le succès génère les ressources nécessaires au succès suivant.
Bah, cela dit, merci mon très cher, la voix la plus avisée, vraiment on en apprend des choses, on comprend mieux cette nouvelle dynamique insufflée par la ville d'Edmonton qui veut justement repenser la ville et là à mettre justement au niveau qu'elle mérite d'être. C'est une belle initiative qu'on salue. Merci pour ces éclaircies, mon très cher Luc Hensley.
Merci à vous également et on se dit à lundi prochain.
Ici Luc Hensley-Luma, c'est FED Radio Cité pour l'IGL.